La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et bonjour à tous. Jean Renoir n'a pas tout de suite eu la vocation du cinéma. Il est vrai que cet art était jeune quand il l'a embrassé, puisque l'un et l'autre sont nés à quelques mois de distance en 1894. D'abord cavalier dans l'armée, puis aviateur, Renoir a fait en 14 une guerre exemplaire et puis il a ensuite cherché sa voie dans la céramique, avant finalement de trouver son destin dans la mise en scène de films, comme nous l'avons vu au cours de notre premier épisode introductif et biographique. Et puis ensuite, c'est un parcours de l'œuvre que nous a proposé Charlotte Garçon. Des cahiers du cinéma, elle a notamment insisté sur son film French Cancan et sur le rapport de Renoir à la scène, ainsi que sur la question des frontières dans son œuvre, notamment des frontières entre classes sociales. Et puis dans un troisième temps, nous nous sommes penchés, c'était avec Philippe De Vita, sur la question d'un Renoir auteur, pas simplement de films, mais également de livres. Nous nous sommes aussi demandé si ce réalisateur était un moderne ou au contraire un homme réfractaire au changement. La réponse en podcast. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour mettre en regard le père et le fils Renoir, et plus généralement pour revenir sur les liens d'affection tissés autour d'eux par ces deux personnages, nous sommes en compagnie de Sylvie Patry, directrice de la conservation et des collections au département des peintures du musée d'Orsay, spécialiste des impressionnistes. Elle a été la commissaire de l'exposition « Renoir, père et fils, peinture et cinéma » qui avait d'abord été présentée à la Barnes Foundation de Philadelphie, et puis ensuite au musée d'Orsay en novembre 2018. À cette occasion, elle avait publié aux éditions Flammarion un catalogue dans lequel elle donnait un texte intitulé « Renoir, tel père, tel fils ». Allez, bienvenue à tous, voici la Compagnie des œuvres.
Je crois que l'œuvre de tous les pères influence tous les fils faisant du cinéma ou faisant autre chose. Je crois que si j'avais eu un père boucher, que je sois dans la boucherie, eh bien, je m'y connaîtrais mieux en boucherie que si j'avais eu un père fleuriste. Et non, je crois à l'influence des parents énormément. Vous me parlez de mon père, ben je vais citer les paroles de mon père à propos de cette fameuse question. Mon père disait, ce sont les parents qui font les enfants, mais après la naissance.
Et alors donc, cette formation a guidé au début dans le cinéma?
On est influencé, je m'en suis défendu pendant très longtemps. Maintenant, je l'accepte complètement, je ne vois pas pourquoi, si j'ai hérité d'une certaine forme de menton de mon père, pourquoi je n'aurais pas aussi hérité d'un certain goût pour les arts plastiques, ce qui ne veut pas dire que je puisse y briller, ni que mon goût soit bon, mais ça m'intéresse.
Bonjour à vous, Sylvie Patry, et merci Bonjour. D'être avec nous. Alors avec Jean et Auguste Renoir, il est vrai qu'on est là devant un cas presque unique d'une famille où le père et le fils se sont hissés au sommet de leur art, l'un dans la peinture et l'autre dans le cinéma. Renoir, Jean, était surnommé le patron par la critique cinématographique. Auguste Renoir était aussi sans doute un patron dans le domaine de la peinture. Enfin, on a là deux personnalités très importantes, chacun dans leur champ.
Oui, je pense que c'est une configuration assez unique et qui reste encore aujourd'hui fascinante, c'est-à-dire d'avoir effectivement un père et un fils qui se hissent à un niveau d'excellence, chacun dans un domaine visuel différent, mais lié à certains égards. Et Jean Renoir a été surnommé le patron, comme vous l'avez dit, mais Pierre-Auguste était aussi appelé le patron à la fin de sa vie. Donc c'est amusant aussi de voir que les termes se retrouvent pour désigner ces deux deux grands artistes qui ont été salués comme tels, en plus de leur vivant, en fait, par leurs contemporains, et qui se sont inscrits dans la postérité.
Alors, patron de quoi en ce qui concerne Pierre-Auguste Renoir ? Patron des impressionnistes, patron de la peinture d'une deuxième partie du XIXe siècle ?
Oui, alors au moment où cette expression de patron se fait jour, il fait vraiment partie des grandes figures de l'art français, je dirais. Patron de la peinture française, au même titre que Monet, etc. On est au tournant du XXe siècle, au début du XXe siècle. Donc Renoir s'est illustré à partir des années 1870 comme un des grands peintres de l'impressionnisme. Et puis sa manière, son regard, son approche de l'art a évolué vers une peinture plus classique.
Tout il y a en plusieurs gardant, époques.
Des acquis de l'impressionnisme. Il y a absolument plusieurs époques dans l'œuvre de Renoir, et ça c'est un point important sur lequel on pourra revenir aussi dans la question de la définition des rapports entre le père et le fils, puisque Pierre-Auguste Renoir a vraiment évolué, changé de style. Il a effectivement travaillé à partir d'un nombre de thèmes assez réduit, que l'on retrouve, il y a des constantes que l'on retrouve dans son œuvre, mais sa manière évoluait en permanence. En fait, il disait d'ailleurs qu'il était en proie à la maladie des recherches. C'est vraiment un artiste qui s'est toujours remis en question et qui a remis sa peinture sur le métier, si je puis dire. Et quand il est mort à la fin de sa vie, il a déclaré, non sans coquetterie, qu'il commençait enfin à savoir peindre.
Oui. Remettre sur le métier, c'est aussi une expression que vous pourriez associer à son fils, Jean Renoir.
C'est effectivement, je pense, une similarité entre les deux artistes et entre les deux hommes, cette forme d'inquiétude qui ne se perçoit pas forcément immédiatement, et cette diversité dans leur œuvre. C'est vrai que quand on regarde un film de Jean Renoir à ses débuts dans les années 20 et puis un film des années 1950, on a vraiment des propositions très, très différentes. Donc je pense qu'il y a cette idée, et Jean Renoir a vraiment vécu ça au plus près, en fait, auprès de son père, cette idée que l'art ne s'enferme pas dans une formule, que c'est une quête personnelle, en lien avec, ça peut prendre une forme collective dans le cas du cinéma, un travail d'équipe, mais il y a vraiment cette idée que l'art n'est jamais figé, n'est jamais donné, se construit, et est quand même le fruit d'un parcours, d'un cheminement individuel.
Alors pour continuer à découvrir Pierre-Auguste Renoir dans cette semaine consacrée à son fils, il faut dire qu'il y a quand même un certain nombre d'œuvres très célèbres, par exemple le bal du Moulin de la Galette, mais aussi le Déjeuner des canotiers. Quelles seraient pour vous les œuvres ou l'œuvre qui nous permettrait le mieux de comprendre l'apport de Renoir père à la peinture ?
C'est une question difficile. Le Moulin de la Galette, le bal du Moulin de la Galette, qui est un des chefs-d'œuvre du musée d'Orsay, est certainement un de ses tableaux les plus ambitieux, qui résume, le Renoir impressionniste pour plusieurs raisons, parce que Renoir, à ce moment-là, peint la vie moderne, ce qu'on appelle la vie moderne. Il rompt avec une certaine tradition de la peinture de son temps qui se tournait vers les sujets d'histoire, vers les sujets religieux. Donc il y a vraiment cette idée que le peintre doit peindre ses contemporains sans hiérarchie de genre, sans hiérarchie de sujets. Et d'ailleurs, à cet égard, le Moulin de la Galette est un tableau de grand format. C'est un format qu'on adoptait plutôt au XIXe siècle pour des sujets sérieux, pour des sujets plus édifiants. Donc on est en 1876 et le tableau est montré pour la première fois au public en 1877. Et puis c'est tout l'univers de Renoir, ce sont ses amis, c'est cette atmosphère de bal, c'est cette atmosphère d'unanimité, de fraternité, au-delà des différences sociales qui pourtant sont marquées dans cette peinture. Et puis il y a évidemment le travail de la couleur, le travail de la lumière qui dissout en grande partie les formes. Si vous avez le tableau en tête, il est aussi très 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 bizarrement cadré, en fait presque comme un instantané. C'est presque assez exceptionnel d'ailleurs, c'est assez unique dans l'œuvre de Renoir. Si on tirait un petit peu l'analyse, je dirais que que j'ai même osé l'écrire, que c'est peut-être sa seule œuvre cinématographique, au sens où on a vraiment l'impression d'un déroulement d'une séquence. Et d'ailleurs, c'est un thème, le bal, que l'on retrouvera dans l'œuvre du fils, pas comme une transposition au cinéma de la peinture, mais avec cette idée que le moment du bal, c'est aussi un moment de fraternité, d'unanimisme social, même s'il est factice, même s'il n'est que dans le regard du peintre et à la faveur de ce moment un peu de grâce où on oublie qui on est et on communie dans le plaisir de la danse et dans le plaisir d'être ensemble. Donc ça, ce serait un premier tableau exemplaire d'un moment de l'art de Renoir. Et ensuite, peut-être une autre œuvre qui d'ailleurs a le même format quasiment que le Moulin de la Galette, qui est un tableau qui est aussi conservé au musée d'Orsay, qui s'appelle Les Grandes Baigneuses, qui est vraiment le dernier grand tableau de Renoir, et qui montre deux jeunes femmes au premier plan nues, alanguies, dans une nature complètement artificielle, au sens où c'est une nature recréée. Et on retrouve évidemment le goût de Renoir pour la couleur, pour les effets de lumière, mais on a aussi cette volonté, à la fin de sa vie, de dialoguer avec les maîtres du passé, avec Titien, avec Rubens, et du coup de rompre avec cet impératif de la représentation de la vie moderne. Donc là, en poussant un peu le trait, je dirais que ce sont deux œuvres assez emblématiques de deux moments clés de son évolution, et ce sont par ailleurs deux œuvres qui résonnent, à mon avis, très fortement dans le contexte de cette relation entre le père et le fils. On y reviendra sans doute au sujet des Grandes Baigneuses et des modèles en particulier des Grandes Baigneuses.
Parfois, je me demande quelle est la chose la plus nette, la plus directe que je doive à mon père. Et je crois que je dois surtout lui être reconnaissant d'une certaine attitude envers ce que l'on appelle aujourd'hui un peu prétentieusement les questions de sexe. Et cela vient de ce que mon père faisait beaucoup de nus. Alors, j'étais donc entouré de tableaux représentant des femmes nues. Je rencontrais tout de même de temps en temps les modèles de mon père alors qu'elles n'étaient pas habillées, et pour moi tout ça était extrêmement naturel. Et plus tard au collège, lorsque j'ai vu des petits camarades qui me montraient, en se cachant des photographies de femmes nues, je ne comprenais pas pourquoi. Je trouvais ça extrêmement simple, extrêmement normal, extrêmement naturel. Et je crois que ça m'a rendu un grand service et que ça m'a permis, dans mes films, d'aborder ces questions de sexe peut-être avec un petit peu plus d'honnêteté que ne le font mes petits camarades qui ont été entourés d'une éducation un peu plus hypocrite, disons, étant jeunes.
C'est-à-dire que c'était la nature, alors ?
C'était la nature.
Entretien avec Marguerite Steinlen en 1956. Alors, ce qui lui a transmis son père à Jean Renoir, Sylvie Patrice, c'est peut-être pour commencer un rapport au corps assez libre et aussi un sens du spontané, un sens du naturel qu'on retrouve dans une attitude de Pierre-Auguste Renoir, mais aussi sans doute dans ses tableaux.
Oui, un sens du naturel et un rapport au corps incontestablement, et puis de façon très très concrète, en fait, des modèles, des corps en commun, si je puis m'exprimer ainsi.
Avec Dédé, alors, notamment.
Avec Dédé, absolument. Le passage que vous venez de passer, cet extrait d'interview, est assez fascinant, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que dit Jean Renoir. Il y a effectivement cette liberté d'approche du corps féminin, et c'est vrai que on la retrouve dans les tableaux de Pierre-Auguste Renoir, et on la retrouve aussi dans l'œuvre de Jean. Je pense par exemple à un court-métrage très très fascinant, quasiment hypnotique, sur un air de Charleston, où l'on voit Dédé, donc, qui a été le dernier modèle de Renoir et qui devient la première actrice, le premier modèle de Jean, si
et la première
dire,
femme, surtout.
Sorte, hein. Et la première femme, absolument. On la voit danser de façon extrêmement libre avec ce qu'on pourrait appeler maintenant un bikini. Et puis, dans un film plus tardif, Le Déjeuner sur l'herbe, il y a évidemment cette scène magnifique où Nénette se baigne. Et c'est vrai que chez Jean, comme chez Pierre-Auguste, les femmes sont souvent du côté de la nature, bon, ce qui est pas sans poser problème pour ce qui est de la vision de la femme, en tout cas chez Pierre-Auguste Renoir. Mais il y a effectivement cette approche assez directe, immédiatement sensuelle, en fait, du corps féminin. Et je dirais qu'il y a cette nécessité pour l'un comme pour l'autre d'avoir une d'avoir le corps féminin, le modèle ou l'actrice féminine comme une étincelle en fait. Il y a d'ailleurs des récits parallèles qui pourraient être faits entre la genèse, la naissance d'une toile chez Renoir qui est suscité en fait par le modèle, par le corps du modèle, par sa façon d'être, de se mouvoir. Et puis dans la vie de Jean Renoir, il a beaucoup aussi insisté sur le déclic, sur l'étincelle qu'a pu lui procurer la rencontre avec des actrices, le choix d'une actrice. Alors évidemment, l'exemple le plus frappant, c'est Dédé, donc André Heuchling, de son vrai nom. Qui arrive chez Pierre-Auguste Renoir alors dans des circonstances qui sont encore mal éclaircies autour de 1916-1917 pendant la guerre. C'est une jeune femme d'origine très modeste qui est née dans l'Est, qui arrive avec sa mère à Nice. Son village a été détruit près de Reims. Et elle commence à poser pour Pierre-Auguste Renoir dans le sud de la France. Il avait une maison qui est aujourd'hui un merveilleux musée à Cagnes. À quelques kilomètres de Nice. André Dédé va commencer à poser pour Pierre-Auguste Renoir. Donc c'est l'un des modèles du tableau que je citais tout à l'heure, les grandes baigneuses que l'on peut admirer au musée d'Orsay. Et Jean, qui à ce moment-là est au front, a des permissions et il va rencontrer en fait Dédé à Cagnes. Il va tomber amoureux d'elle et il l'épouse. Son père meurt en décembre 1919 et il l'épouse en janvier 1920. Donc on voit que le sentiment est né très vite. Et cette fascination du père comme du fils pour Dédé a été vraiment un élément déclencheur. Et ce qui est assez beau dans cette histoire, c'est que... quand Dédé est arrivée chez Pierre-Auguste Renoir, elle arrive dans sa vie et dans sa carrière à un moment vraiment difficile. Renoir est hanté par la guerre, rien n'y paraît sur ses tableaux, mais il est hanté par la guerre, il a deux fils au front, il a des fils qui ont été blessés, hein. Jean comme Pierre ont été blessés assez gravement, il est seul, il perd sa femme en 1915, il est très malade, il est handicapé, et Dédé, c'est une renaissance en fait. Cette jeune femme très menue, avec ses cheveux roux, avec cette peau qui prend comme nul autre pareil la lumière, qui était un des critères de la vie de tous les témoins, qui était essentiel pour Pierre-Auguste Renoir. Elle va vraiment apporter de la joie déjà, sa jeunesse, sa fraîcheur, etc. apporte de la joie dans cette maison qui est une maison déserte, qui a été vidée de ses enfants, de cette vie familiale qui comptait tant pour Renoir. Et puis elle est vraiment elle lui inspire vraiment une série d'œuvres. Il se met à peindre de façon frénétique, en fait, si je puis dire, Dédé. Il surmonte la maladie. Matisse, qui à ce moment-là est à Nice, à partir de la fin de 1917, va voir, en fait, il va rencontrer Dédé. Et il va voir Renoir peindre et être comme ranimé au contact de ce jeune modèle et des nus qu'elle lui inspire. Donc c'est une très belle histoire. Et ensuite Jean, comme ça a été rappelé dans les précédentes émissions, a toujours dit, on ne sait pas si c'est vrai, c'est le problème avec Jean Renoir, mais enfin bon, acceptons l'histoire, il a toujours dit qu'il était devenu cinéaste pour en fait faire de sa femme une vedette. C'est-à-dire qu'on retrouve ce même mécanisme du modèle, de l'actrice qui est en fait l'étincelle de la création, qui suscite et qui bascule, qui pousse vers l'acte créateur. Donc c'est un très beau parallèle, je trouve, et une très belle rencontre entre les deux artistes, entre les deux hommes, du point de vue de l'affection.
Mais alors du coup, on se pose évidemment la question, sans vouloir faire de psychologie, mais du rapport du père et du fils. On imagine que le fils admire énormément son père, qui est quand même quelqu'un... déjà de célèbre hein, quand il naît, et puis dont on peut mesurer déjà tout l'apport à la peinture de son temps. Et finalement, lui et son père ont un regard peut-être presque amoureux, ou en tout cas regardent la même femme, et le fils se marie avec cette jeune fille qui adore aussi le vieux Renoir, entre guillemets. Est-ce que vous vous êtes interrogé, faut-il seulement le faire, sur ce que ça peut créer finalement dans cette relation un petit peu triangulaire?
Je me suis interrogée, évidemment, j'ai même hésité à un moment donné de la préparation de l'exposition à faire appel aux lumières de la psychanalyse. Oui, c'est une situation quand même très étrange. Alors si on veut en rajouter, en plus, Renoir, père, aimait tellement Dédé à un moment donné qu'il avait songé à l'adopter.
Mm-hmm. Donc, juste avant le mariage, finalement, juste avant le Absolument. Mariage de Jean et de Dédé.
Absolument, donc ça devient vertigineux. Mais ce qui est quand même... Ce qui est intéressant, bon, effectivement, il y a cette profondeur psychologique cette relation qui est très troublante, en effet. En revanche, ce qui est intéressant, et c'est là qu'on sort du biographique pour passer du côté de l'art, et on parle finalement d'artistes aussi, et c'est ça qui compte, c'est que ils vont tous les deux donner, alors à partir de la même jeune femme. Ils vont tous les deux en faire, et elle-même va se révéler ou va inspirer des œuvres qui sont très très différentes, autant chez Renoir, ces baigneuses qui sont inspirées par Dédé. Je pense que si je vous disais que Dédé, à ce moment-là, à 16, 17 ans, c'est une jeune fille menue, très vive, vous ne me croiriez pas si on n'avait pas quelques photos et quelques témoignages. Tant elle est représentée comme une ces nues très très opulents, très sensuels, avec une très belle lumière dorée, digne de Rubens, de Titien, enfin de tous les maîtres qu'à ce moment-là Renoir regarde. Et du côté de Jean, eh bien quand elle devient son actrice, quand elle travaille à ses films aux côtés de Jean, c'est au contraire là, une femme enfant, bon, parfois une femme dominatrice, une femme très expressive, très expressionniste dans son jeu. Donc et on a un portrait de Derain de 1924 ou 1925, je ne sais plus, qui nous montre Dédé, qui est devenue entre-temps Catherine Essling, donc une star de cinéma, en jeune femme très, très élégante. Donc c'est intéressant de voir qu'effectivement, cette relation triangulaire, comme vous le dites, qui débouche du point de vue des œuvres sur des créations qui sont très très différentes, mm-hmm. et qui n'ont finalement pas grand-chose à voir.
Alors s'ils ont, pour ainsi dire, partagé Dédé, l'un comme modèle, l'autre comme épouse, collaboratrice, vedette, il faut pas oublier une autre femme qu'ils ont en commun, et c'est Gabrielle. Alors c'est pas du tout le même rapport, mais Gabrielle va être aussi une intercessrice, si on peut dire, un petit peu entre les deux, et à plusieurs moments de la vie de Jean Renoir, Sylvie Patry.
Ah oui, Gabrielle, c'est vraiment une figure absolument clé. Et dans tous les textes que Jean et les témoignages que Jean a laissés sur sa propre vie, à mon sens, c'est un des personnages les plus, une des figures les plus bouleversantes. Hein, les derniers mots de son livre autobiographique, c'est attends-moi Gabrielle, qui Gabrielle est morte avant Jean, et ça a été un déchirement. Donc Gabrielle, c'était une cousine de la mère de Jean, d'Aline Charigot, une jeune femme qui venait des Soies, donc enfin, entre la Champagne et la Bourgogne. C'est une jeune femme d'origine modeste et qui arrive au service de la famille au moment de la naissance de Jean et qui devient sa bonne, sa grande sœur, sa mère de substitution. Et avec Gabrielle, en fait, c'est à la fois la tendresse, l'affection, la complicité. C'est aussi le lien, celle qui va faire le premier lien, d'après les souvenirs de Jean, avec le monde du spectacle, de la fiction. Quand il pose pour son père, par exemple, pour lui faire prendre patience, elle lui lit des contes d'Andersen. Et d'ailleurs, Jean Renoir adaptera ensuite Andersen en 1928. Il tourne La petite fille aux allumettes. Donc il y a eu aussi ce prolongement, en fait, avec cet univers de l'enfance tel qu'il l'a créé, tel que l'a créé aussi Gabrielle. Elle l'emmène au spectacle, voir des marionnettes, voir du théâtre de rue. Donc elle a vraiment ce rôle très très important. Et puis c'est elle aussi qui fait le lien entre le père et le fils, parce qu'en fait ce dont il faut vraiment avoir conscience, c'est que Jean, en fait, il a assez peu longtemps connu son père. Hein. Il avait 26 ans quand son père est mort en 1919. Il a été beaucoup élevé en pension. C'est vraiment Gabrielle qui va faire le lien entre le monde de son père et le monde...
Et jusqu'aux États-Unis, parce que quand Jean Renoir va avoir envie, on en parlera peut-être aussi dans la seconde partie de cette émission, d'écrire une biographie de son père, c'est en partie parce que elle lui a raconté des souvenirs de son enfance hein, et donc de son père plus jeune.
Exactement. Et puis Gabriel, ils se suivent. En fait, c'est assez merveilleux comme histoire. Jean arrive aux États-Unis en 1940, et quelques mois après, c'est Gabriel qui arrive aux États-Unis. Ils vont être voisins à Beverly Hills jusqu'à la mort de Gabriel. Les deux familles, d'ailleurs, restent encore très liées. Et d'ailleurs, quand Gabriel arrive aux États-Unis, c'est couvert par la presse. Le modèle de Renoir arrive aux États-Unis. Elle pose avec Jean, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que Gabriel n'était pas uniquement la bonne d'enfant. Ça a été l'un des modèles de prédilection de Renoir père. Entre son arrivée au service de la famille au milieu des années 1890 jusqu'à son départ en 1913, elle a inspiré à Pierre-Auguste près de 200 tableaux, et certains de ses tableaux les plus célèbres.
Mais alors un autre modèle, pardonnez-moi, un autre modèle de prédilection pour Pierre-Auguste Renoir, c'est son fils Jean Renoir.
Oh ben nous les enfants, nous avions tous les droits, évidemment. Et naturellement, j'ai assisté au travail de mon père bien souvent. D'abord pour une raison très simple, c'est que j'ai servi de modèle moi-même, bien souvent. D'ailleurs, je me vois là sur les murs, dans différents endroits. Non, là, c'est pas moi, ça c'était une vraie petite fille. J'avais les cheveux longs, mais j'étais pas une petite fille. Non, ça c'est pas moi, mais enfin, je suis quelque part.
Ah oui, vous ai vu.
Vous m'avez vu.
Et nous vous avons même vu bien ailleurs que dans cette exposition. Vous avez souvent posé pour votre père ?
Oh, plusieurs centaines de fois, certainement.
Vous étiez sage ?
Ah oui, bien sûr. Mais mon père avait horreur qu'on soit sage. Il détestait ça. Il voulait qu'on bouge. Il voulait qu'on soit vivant.
Ah oui.
Il aimait trop la vie. Il avait horreur des modèles figés.
Mais malgré tout, vous étiez obligé de lui consacrer votre attention, votre temps, lorsqu'il vous demandait de poser pour lui.
Le temps, l'attention, pas trop. Il aimait mieux que l'on pense à ses propres petites affaires.
Est-ce que vous vous rendiez compte de son talent lorsque vous étiez enfant ?
Bah, évidemment non. Les enfants ne se rendent pas compte de ces choses-là. On trouve que tout est naturel. Simplement, je me rendais compte que le monde, qui n'était pas celui de mon père, était un monde bizarre. Pour moi, le vrai monde était celui de mon père, et le monde au-dehors était un monde inventé et factice.
Est-ce que ça a eu une influence sur votre métier à vous, de cinéaste, de metteur en scène, de réalisateur, ce monde dans lequel vous viviez ?
Écoutez, probablement oui. On subit toujours des influences. J'espère, j'essaye de subir celle-là. Ça ne veut pas dire que j'y réussisse.
Dans votre exposition, Sylvie Patry, on voyait évidemment plusieurs portraits de Jean Renoir par Auguste, avec les cheveux très longs. Son père ne voulait pas d'ailleurs qu'il se coupe les cheveux pour pouvoir le peindre avec cette tignasse-là. Comment sont-ils alors les tableaux que le père fait du fils, et qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire soit sur leur relation, soit sur tout simplement la vision que le père pouvait avoir de son enfant ?
Alors il y a une soixantaine de tableaux, de pastels, alors c'est qui représentent Jean enfant et adolescent, hein, puisqu'il a posé quasiment juste après sa naissance, hein, entre 1895 et le dernier tableau c'est 1910. Ces tableaux, ils révèlent déjà une grande tendresse, effectivement, une attention pour le monde de l'enfance. Dans l'interview que vous avez, que vous venez de diffuser, Jean disait que son père ne voulait pas vraiment qu'il pose. Alors, il y a eu des témoignages contradictoires, parce qu'il a parfois raconté des séances de pose que lui-même trouvait éprouvantes. Il fallait qu'il reste longtemps dans l'atelier. En fait, chose est-il que ça lui a donné une proximité avec la pratique artistique qui est quand même assez qui est très précoce et qui est très profonde.
Qu'est-ce que ça a pu lui apprendre après en tant que cinéaste ? Qu'est-ce qu'il a pu en retenir de ces séances de pose et de la manière dont son père travaillait ?
Alors, ce sur quoi effectivement Jean a insisté souvent, c'est cette volonté d'avoir un modèle en fait qui reste relativement naturel. Enfin bon, tout est la notion naturelle est un petit peu compliquée puisque elle est souvent finalement fabriquée par l'artiste, mais en tout cas comme idéal, c'est le naturel, non pas comme condition réelle, mais en tout cas comme idéal de peinture. Donc je pense que c'est un aspect que Jean a pu retirer de ses séances. Il a beaucoup dit aussi qu'il avait pris conscience aussi du travail, tout simplement. que la vie d'artiste est une vie de travail. Et comme je disais en début d'émission, c'est un aspect qu'on associe peu avec Pierre-Auguste Renoir, parce qu'on a souvent cette idée un peu fausse, à mon sens, que l'impressionnisme c'est facile, que Pierre-Auguste Renoir c'est le peintre du bonheur, etc. Voilà, donc on a moins cette idée que c'est un artiste exigeant, qui recherchait, qui multipliait les tentatives et les expériences. Et ça, donc Jean l'a vu en direct, il l'a vécu en direct. Ce qui est émouvant dans cette relation de portraits, donc portraits qui sont dans un seul sens pour ce qui est de Pierre-Auguste qui peint son fils, et ensuite le fils ne filmera jamais son père, hein, il est devenu cinéaste après, donc on a des images filmées de Pierre-Auguste, mais elles ne sont pas
vues. Et le père ne saura même pas que son fils est devenu aussi un patron, et parce qu'il ne savait même pas, il n'a pas pu savoir que Jean Renoir deviendrait cinéaste, il est mort trop tôt.
Oui, oui, il est mort trop tôt. Il est mort, sept ans avant que son fils ne trouve vraiment sa voie. Mais il y avait un grand portrait. Donc il y avait les portraits en fait de Jean par Pierre-Auguste. Ils avaient plusieurs destinations, si je puis dire. Bon, il y a eu des portraits au pastel, des portraits peints, et il y a des portraits qui sont restés dans le cercle familial. Et puis il y a des portraits qui étaient tout de suite vendus en fait, qui étaient tout de suite sur le marché. Alors Jean, qui a, à la mort de son père, qui a comme ses frères hérité d'un nombre très important de peintures, à un moment où Pierre-Auguste Renoir était vraiment un artiste recherché, très cher sur le marché, donc c'est comme ça aussi qu'il a pu financer ses films, hein, c'est en vendant cet héritage, avec un sentiment de culpabilité, dira-t-il plus tard, il y a une œuvre qu'il a gardée toute sa vie, c'est précisément un portrait de lui, un très beau portrait en pied, en chasseur. Ce tableau, il ne l'a jamais vendu, il a toujours vécu avec, il l'a fait expédier aux États-Unis quand il s'est installé aux États-Unis, et on a de très belles photos de Jean Renoir à la fin de sa vie dans sa maison à Beverly Hills, où il est très âgé, c'est vraiment très peu de temps avant sa mort, et il y a ce grand portrait en pied, un portrait très noble.
Oui, un portrait qui est d'ailleurs reproduit dans le catalogue de l'exposition. On va continuer de parler de tout ça avec vous, Sylvie Patry, de Renoir père et de Renoir fils, mais pour l'heure, c'est le moment de retrouver la traditionnelle chronique du jeudi.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Qui est une carte blanche proposée aujourd'hui à Stéphanie Genant, professeure de littérature française du XVIIIe siècle à l'Université de Bourgogne. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Mathieu.
Et vous avez choisi de nous parler de La Règle du jeu, qui vous paraît le film le plus intéressant de Renoir, mais pour quelle raison ?
Alors, je ne les ai pas tous vus, il faut être honnête, mais de ceux que j'ai vus, oui, c'est celui qui me paraît le plus intéressant. D'abord parce que c'est un film un peu à rebours de ce qu'on sait du cinéma de Renoir habituellement, c'est-à-dire que c'est un film très féroce. C'est un film dur, un peu au vitriol, qui prend un peu à rebrousse-poil l'image du cinéaste humaniste de gauche que Renoir est, par ailleurs, hein, et par exemple qu'il a montré dans La Marseillaise l'année d'avant, La Règle du jeu. Donc là, il y a un contre-pied intéressant qui, en plus, a donné lieu à une réception très problématique, là encore. Renoir pensait plaire à son public, et en fait, La Règle du jeu a été quand même un scandale lors de sa sortie en 1939, et c'est ça qui, pour moi, rend ce film aussi si singulier dans son parcours.
Alors vous êtes 18e-iste, quel rapprochement on peut imaginer entre ce siècle, qui est le siècle que vous connaissez le mieux, et le moment de l'entre-deux-guerres dépeint dans La Règle du jeu ?
Alors, il se trouve que Renoir nous facilite la tâche dans la mesure où le film La Règle du jeu s'ouvre sur une épigraphe de Beaumarchais. Donc c'est d'abord un film très théâtral, hein, qui fait explicitement référence au drame daté du XVIIIe siècle, et qui en plus donc prend Beaumarchais comme modèle à deux points de vue. D'abord le côté libertinage, ce qui joue un rôle très important dans l'intrigue de La Règle du jeu, puisque ce sont des personnages qui vont volter comme ça d'une femme à l'autre et avoir leur peine de cœur. Donc ça, quand on est 18e-iste, on s'y reconnaît, évidemment, c'est du Marivaux, c'est aussi du Beaumarchais, et puis surtout, ce qu'il emprunte aussi à Beaumarchais, Renoir, c'est un contexte politique sulfureux, Il a dit, lorsqu'il a préparé la règle du jeu, avoir eu en tête cette phrase, « Nous dansons sur un volcan », faisant référence à l'époque aux accords de Munich, auxquels peu de gens croyaient en réalité, voyant bien que la guerre allait plutôt remplacer la paix. Et Beaumarchais écrit aussi sa pièce, « Le mariage de Figaro », que Renoir choisit là, en citant au départ, en 1784, au moment où la France, elle aussi, danse sur un volcan. Et on voit bien qu'une catastrophe sociale, qui est peut-être pas une catastrophe géopolitique comme la Seconde Guerre, mais une catastrophe sociale couve. Donc c'est une pièce très noire aussi, le mariage de Figaro, comme la règle du jeu. C'est pour ça que j'étais en quelque sorte en terrain connu, on peut dire. La règle du jeu raconte une espèce de bal masqué, une folie, une nuit où tout est permis et qui est cette grande fête de la Collinière où tout le monde se déguise, mais où finalement le pire sort. C'est exactement la manière dont aussi, pardon, Beaumarchais finit sa pièce, hein, le mariage de Figaro. Acte 5, sombre est la nuit, tout le monde est déguisé, plus personne ne se reconnaît, mais c'est finalement les choses les plus violentes qui sortent aussi. Voilà.
Alors, deuxième source de votre intérêt pour ce film, c'est le rapport qu'il a avec la question du patrimoine ou même de l'identité nationale. Expliquez-nous cela.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ce que les gens et les cinéastes en particulier disent de la règle du jeu, ils le reconnaissent tous comme modèle. C'est un film qui vraiment fait partie du patrimoine cinématographique français aujourd'hui, à l'évidence, hein, pour toutes les générations de cinéastes, en fait, pour la Nouvelle Vague et ou pour des gens comme Assayas, beaucoup plus proche de nous. Et pourtant, c'est un film qui a toujours tendu à la France un miroir très grinçant. Alors moi, j'aime beaucoup les œuvres comme ça qui rentrent en contrebande dans la mémoire française. Parce qu'on peut pas dire que Renoir ait tendu de la France un portrait, et réalisé, pardon, de la France un portrait flatteur. Au contraire, c'est un portrait, je le disais tout à l'heure, noir et cruel des élites françaises, cette aristocratie raciste, fermé à toute hétérogénéité culturelle, que Renoir choisit en plus de faire représenter dans ce contexte particulier, hein, que sont les années 30 en France, dans notre mémoire, choisit de représenter, donc d'incarner plutôt par un acteur juif et une actrice autrichienne. Donc il choisit des étrangers ou ceux que les personnages appellent des métèques, hein, autrement dit pour dénoncer justement le racisme de la France. Donc il problématise ce que c'est qu'une certaine élite française. Donc je trouve ça intéressant que ce film aujourd'hui si français ait à l'époque tendu à la France un miroir affreux dans lequel elle n'a pas voulu se reconnaître, puisque les spectateurs ont pour la plupart quitté la salle. C'était pas possible pour les Français de voir ce qu'était la France en 1939. Et c'est pas un hasard si du coup Renoir représente des Français avec des figures tout à fait marginales de l'identité française, vous voyez.
Et puis troisième aspect qui vous retient particulièrement dans ce film, Stéphanie, c'est la question des rapports hommes-femmes.
Oui, parce que c'est encore quelque chose de très violent que la règle du jeu nous donne à voir à travers notamment cette métaphore de la chasse. Il y a cette scène de chasse qui a marqué tous les spectateurs, qui est une espèce de boucherie où tous les personnages tirent à coup de fusil sur toute une série d'oiseaux et de lapins, sachant que le coup de fusil, c'est aussi ce qui tue le personnage de l'aviateur Jurieux, l'homme encombrant dont on ne sait pas que faire. Donc il y a un parallèle qui est posé d'emblée entre on tue des proies et on tue ou on se débarrasse de celles qui et ceux qui nous encombrent. Et comme il est question de conquête féminine en permanence dans ce film, le marquis de la Chesnelle, personnage principal, dit à un moment donné que son idéal, c'est le sérail. Pourquoi on ne peut pas posséder les femmes? Pourquoi on ne peut pas les capturer au même titre qu'on capture les faisans pour en faire ce qu'on veut, pour les lâcher, pour les dévorer, pour les tuer, pour les capturer? Donc il y a une vraie réflexion sur ce que c'est que la prédation qui explique cette scène de chasse assez effrayante, et puis ce qui explique les rapports masculins et féminins qui sont très inégalitaires, très violents, ce que le film donne bien à voir. Et du coup, la femme Christine qui voudrait elle aussi se libérer, devenir elle aussi une prédatrice, c'est très bien que ça lui est interdit. En fait, à l'époque, les femmes ne sont que des oiseaux de proie, que des faisans ou des perdrix qu'on chasse.
Eh bien, merci beaucoup Stéphanie Genon pour cette lecture actualisée de La règle du jeu de Jean Renoir. À très bientôt. C'est le dernier épisode de notre série consacrée au cinéaste Jean Renoir dans la compagnie des œuvres. Série que nous terminons avec une mise en regard du père et du fils du réalisateur et du peintre en compagnie de Sylvie Patry, spécialiste de l'impressionnisme et directrice de la conservation et des collections au Musée d'Orsay à Paris.
Je crois qu'il y a un rapport entre tous les arts. Après tout, il s'agit de s'exprimer. Dans le cinéma, la très grande différence avec un art comme la peinture, c'est qu'on est beaucoup à s'exprimer. L'acteur doit s'exprimer, le technicien doit s'exprimer, le metteur en scène doit s'exprimer. Il y a aussi une autre très grande différence, c'est que les moyens donnés aux metteurs en scène de cinéma sont énormes, tandis que les moyens donnés aux peintres sont extrêmement simples. En réalité, on peut peindre avec un morceau de charbon sur un mur blanc, ou dessiner, du moins. Tandis que pour faire du cinéma, il faut un appareil cinématographique, il faut de la pellicule, il faut du son, il faut des tas de choses. Ceci n'est pas d'ailleurs en faveur du cinéma, parce que je crois que les facilités techniques sont contre ce que l'on est convenu d'appeler l'art. Plus on a de facilités techniques, plus il est difficile de s'exprimer. On finit par être noyé sous la richesse. Je crois que c'est un très grand avantage pour le peintre de pouvoir d'abord aller peindre n'importe où, il n'a pas besoin d'un matériel immense. Deuxièmement, d'avoir les préoccupations techniques limitées à l'essentiel. Et cet essentiel devient beaucoup plus profond et devient d'ailleurs beaucoup plus rare. Je crois que le bon peintre est tout de même plus rare que le bon cinéaste. Parce que le bon peintre, n'ayant pas une technique développée, étant limité quant aux moyens, peut creuser plus profondément. Vous connaissez le proverbe « qui trop embrasse, bat les trains ». Eh bien, je crois qu'en art, ça c'est extrêmement important. Le peintre a l'avantage de creuser dans le même petit trou. Et il peut aller très 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 profond. Il peut aller même jusqu'à essayer de trouver les rapports entre l'éternité et le moment, entre le monde et l'esprit, entre le corps et l'esprit. Le sens de la peinture peut aller extrêmement loin. Je crois que les peintres sont à l'heure actuelle les grands philosophes de notre temps.
Alors, on sent une grande admiration de Jean Renoir pour les peintres. En général, Sylvie Patry, à quel point est-ce qu'on peut dire qu'il filme lui aussi comme un peintre, peut-être dans la manière qu'il a de cadrer, de capter aussi la lumière? Et est-ce qu'il pourrait avoir appris ces choses-là auprès de son père en partie?
Ah, c'est une question difficile que vous me posez. C'est vrai que Jean a été beaucoup dans la comparaison et c'est impressionnant d'ailleurs à l'entendre. Il s'est pas vraiment libéré en fait de cette question de la hiérarchie des arts et on sent effectivement qu'il place dans une position de supériorité la peinture. Alors je pense que Jean Renoir a quand même été très soucieux de la spécificité en fait de son médium du cinéma et qu'il n'a pas cherché à filmer comme on peint. D'ailleurs, il met bien en avant les différences entre les deux pratiques artistiques et les deux de regard. Je dirais plutôt que, à mon sens, en tout cas, il a parfois filmé sur les pas de son père. Il a été, il a été très sensible comme lui et peut-être sous l'effet du regard de son père à la lumière, à des motifs comme l'eau. Enfin, il y aurait des points de rencontre, des points communs.
Il y a des plans qui rappellent des tableaux, comme par exemple la balançoire dans une partie de campagne, qui est d'ailleurs ce qui fait la couverture du catalogue et qui rappelle la balançoire peinture de Pierre-Auguste Renoir. Donc il y a des points de contact comme ça.
Absolument, il y a des clins d'œil, il y a des points de contact, mais je pense pas qu'à un seul moment en fait Jean se soit dit qu'il voulait faire en cinéma ce que son père avait fait en peinture ou qu'il ait cherché à transposer en fait la peinture dans le cinéma. Mais c'est vrai que il y a effectivement des clins d'œil, il y a des références à l'œuvre de son père, la fameuse balançoire effectivement avec ce merveilleux cadrage qui rappelle juste pour un plan du film. Puisque c'est une séquence, le tableau de Renoir qui était à l'époque du film déjà très, très célèbre. Hein. C'était déjà une icône de la peinture française, une icône de l'impressionnisme. On pourrait reprendre la démonstration aussi pour une scène de bal dans Héléna et les hommes.
Donc ça, c'est des références conscientes alors?
Je pense que c'est des références conscientes, mais en revanche, ce ne sont pas des transpositions. Je pense que ce sont des, je pense que ce sont des clins d'œil, et ce sont aussi des transformations. Enfin, on a vraiment un vrai langage pictural. Jean travaille avec le temps, avec le mouvement, avec la séquence, ce qui n'était pas le cas de Pierre-Auguste Renoir, et ce qui d'ailleurs n'a pas intéressé Renoir. En fait, il y a des peintres qui ont essayé de contourner cette immobilité de la peinture, si je puis dire, et Pierre-Auguste Renoir assez peu, en fait. Voilà, donc de là à dire qu'il filme comme un peintre, je ne pense pas. Mm-hmm. Je pense qu'il a effectivement, il l'exprime d'ailleurs dans cette interview, je pense qu'il y a une forme de nostalgie, d'une simplicité et d'une relation immédiate entre l'artiste et son motif, en fait, d'une simplicité technique avec cette idée que l'artiste est avant tout un artisan, et donc du coup la technique est un moyen d'expression, mais elle est transparente, elle n'est pas une contrainte, elle n'est pas une machine, en fait, qui sépare de son motif et de la vie, en fait, qui coupe de la vie. Je pense que c'est peut-être dans cette continuité, en fait, entre l'art et la vie, que Jean se situe vraiment dans les pas de son père quand il filme.
Après tout, j'en sais plus que la plupart de mes contemporains. Mais enfin, j'en sais beaucoup moins que je ne voudrais en savoir. Ce que je sais, c'est, comme je vous l'ai déjà dit, qu'en arrivant à Paris, mon grand-père, qui était tailleur et qui avait beaucoup d'enfants, n'est-ce pas ? Il y avait 5 enfants dans la famille. Mon grand-père s'est installé au Louvre. Non pas dans le palais du Louvre, mais dans une des bicoques qui restait debout à l'intérieur de la cour, qui est la grande cour où il y a les tulipes maintenant, les tulipes que je crois ont été données par la Hollande à la ville de Paris. Eh bien, au lieu de belles tulipes, au lieu de cette belle perspective, il y avait là-dedans des tas de maisons croulantes, et ces maisons étaient habitées par des gens qui n'avaient pas les moyens de se payer des appartements dans des immeubles plus somptueux. Donc, les yeux de mon père se sont d'abord posés sur des statues qui ornaient ce palais sur les quais de la Seine. Mon père est essentiellement un produit de Paris. Il me le disait constamment, et il me disait qu'il devait toute sa conception des valeurs, sa conception de l'équilibre des choses, de l'équilibre des couleurs, il la devait à son enfance parisienne. Paris était d'ailleurs encore un peu la campagne comparée à ce qu'il est devenu depuis. Par exemple, mon père me raconte que très souvent, il accompagnait un ami de mon grand-père à la chasse. Et cet ami partait avec un fusil, mon père portait le carnier, et ils allaient chasser là où aujourd'hui il y a la gare Saint-Lazare. Il y avait des prés, il y avait des bois. Mon père se souvient même d'une fontaine, d'une source qui jaillissait à peu près là où est Saint-Augustin maintenant. Et il y avait un petit boqueteau autour de cette source. Et lorsqu'ils étaient fatigués de marcher et de tirer des perdrix, le vieux monsieur et mon père s'asseyaient et buvaient un peu d'eau et faisaient un somme.
Alors, comment comprendre, selon vous, Sylvie Patry, cette volonté de Jean Renoir d'écrire la vie de son père, d'écrire cette biographie ? Qu'est-ce qu'il cherchait, selon vous ?
C'est difficile à dire. Peut-être qu'il faut revenir à l'origine de ce livre. Donc, c'est une biographie, en fait, qu'il a fait paraître en 1962, mais qu'il a mis 20 ans à écrire. Et en fait, quand on regarde, quand on travaille dans les archives de Jean Renoir qui sont conservées à Los Angeles, et quand on reprend aussi sa correspondance, on voit très nettement que ce projet de livre sur son père, il naît en 1941. Il commence d'ailleurs à écrire un premier article avant de se lancer dans la rédaction du livre. C'est le moment où il est aux États-Unis, il arrive aux États-Unis. Moi, ce qui m'a frappé en lisant les lettres de l'époque, c'est son sentiment de déracinement, sa nostalgie de la France. C'est le moment où Gabriel vient le rejoindre aussi en 41. Donc il recrée en quelque sorte cet univers, ce monde de l'enfance, ce monde de la France qui lui manque tant, et puis les circonstances sont dramatiques à ce moment-là. Quand il part aux États-Unis, il est sans nouvelles de son fils Alain. Donc il y a une forme de nostalgie. Il mettra 20 ans à écrire ce livre. Il y a beaucoup de manuscrits, de carnets de notes, etc. Qu'il définit comme un portrait, hein, qu'il décrit comme un portrait. Donc enfin, il rend à son père les portraits que son père lui a accordés quand il était enfant et adolescent. Et c'est une écriture constamment interrompue. Qui sera relancé en particulier à des moments clés de sa carrière, quand il revient tourner en France au milieu des années 50 et quand il tourne ses films parisiens, justement, French Cancan et Elena et les hommes. C'est à ce moment-là qu'il se remet à écrire et qu'il porte finalement à son terme ce livre.
Mais il aurait pu en faire un film, justement, pour montrer la peinture, et beaucoup de gens souhaitaient d'ailleurs qu'il fasse ce film sur son père, sur Pierre-Auguste Renoir, pourtant il n'en a rien fait.
Oui, il y avait une très belle expression de Toubiana qui a écrit en 2005 dans le catalogue d'une exposition qui s'appelait Renoir et qui explorait déjà ces questions. Il écrivait que c'était un ciné-livre, enfin c'était un livre-film, et je pense qu'il a vraiment raison. Il écrivait que c'était le film en fait qui manque à la filmographie de Jean. Il a refusé de tourner, il a refusé qu'on tourne aussi Une vie de son père, mais en regardant dans les archives en fait. J'avais vu aussi que à ce moment-là, au milieu des années 50, il voulait tourner Une vie de Van Gogh. Donc il tourne à ce moment-là, il écrit sur son père et il tourne quand même autour de cette question de la peinture. Et
filmer la peinture.
Sans oser. Alors il a filmé. C'est des tics d'historien de l'art, mais j'ai quand même trouvé au moins un plan dans La Chienne à la fin du film, ou en vitrine de la galerie du marchand, le héros incarné par Michel Simon. Donc regarde cette vitrine, et en vitrine il y a deux tableaux de Pierre-Auguste Renoir. Il y a deux tableaux de son père. Et puis dans un de ses premiers films aussi, il y a deux tableaux qui étaient chez Jean Renoir, deux nus tardifs. Mais bon, ce sont des apparitions furtives. C'est pas ce qu'on pourrait appeler filmer son père ou filmer son œuvre. Moi, j'ai l'impression que son père, il apparaît, mais c'est vraiment tout à fait subjectif. Dans French Cancan, à un moment donné, on a un peintre à Montmartre qui peint en plein air et qui est entouré d'enfants. C'est un vieux monsieur, et je me demande, mais c'est très furtif aussi, je me demande si c'est pas un clin d'œil à son père. On voit aussi Toulouse-Lautrec, mais de façon un petit peu accidentelle. Oui, tout se passe comme s'il n'avait pas vraiment osé y aller, en quelque sorte. Mais ce qui est très frappant, je trouve, c'est que quand on lit ce livre, cette biographie, ce portrait plus exactement, et quand on regarde ces films du milieu des années 50, il y a un même ton, il y a une même ambiance. Il y a d'ailleurs ce pari, en fait, hein, de la fin du 19e siècle qu'évoque... avec un petit peu d'inexactitude d'ailleurs Jean Renoir dans l'extrait que vous avez passé. C'est un Paris très très fantasmé, hein, celui de le Paris de Pierre-Auguste vu par Jean Renoir.
De temps en temps, très à la fin de sa vie, pendant la dernière année de sa vie, il lui est arrivé de se déboutonner devant moi, il lui est arrivé de me parler très sincèrement de ses préoccupations. Ça n'était pas parce que la fin approchait, c'était tout simplement parce que, comme je vous l'ai raconté, après la mort de ma mère, nous étions très seuls dans cette maison, et que deux êtres isolés, même s'il y a une telle différence d'âge, eh bien, finissent par se faire des confidences qui ne se feraient pas sans cela. Et quelquefois, mon père m'a parlé de cette espèce de rencontre de la matière et de l'esprit qui peut parfois être réalisé par des êtres exceptionnels dans l'histoire de l'Église. Des saints ont réalisé cela dans l'histoire de l'art, des génies l'ont réalisé. Je pense que mon père y est arrivé plusieurs fois. Lui ne pensait pas qu'il y était arrivé, mais il savait que des êtres y étaient arrivés et il espérait s'en approcher un petit peu. D'ailleurs, les toiles de la dernière partie de sa vie sont presque entièrement dégagé des soucis de forme et même de couleur. On a l'impression que tout ce qu'il a peint était devenu absolument l'expression de lui-même et de cette sorte de préoccupation.
Dans des vallées closes, j'avoue.
On sent la très grande fierté du fils envers le père, Sylvie Patry. En définitive, quel vous semble avoir été le degré de proximité entre le degré d'intimité réelle, à la fois sur un plan personnel et sur un plan peut-être plus métaphysique ou plus artistique?
Sur un plan personnel, c'est vrai qu'il y a, il y a ce grand moment qu'évoque Jean dans l'interview, c'est-à-dire ce moment de la Première Guerre mondiale où ils sont tous les deux blessés dans
où ils se parlent enfin,
tous les deux malades, et ils se parlent enfin. C'est la première fois et la seule fois où ils vont se parler. Encore une fois, Jean, il a été beaucoup pris en charge à la fois par Gabriel et puis il a été élevé en partie en pension. Donc ça, c'est vraiment le grand moment de rencontre. Et il faudra plus de 40 ans, plus de 50 ans à Jean Renoir pour en faire état et pour alimenter son livre sur son père. Donc cette proximité, elle est très ponctuelle. Encore une fois, il est jeune quand son père meurt. Il est jeune en âge, il a 25 ou 26 ans, et il n'a pas encore trouvé sa voie. Donc en fait, il n'a jamais parlé d'égal à égal, si je puis dire, avec son père. Enfin, ce dialogue entre deux artistes n'a pas eu lieu de leur vivant. Et d'un point de vue plus métaphysique, moi, ce qui me frappe, en fait, c'est que j'ai l'impression que Jean Renoir, ce qui n'est pas du tout une façon de placer son œuvre sous influence, hein, c'est absolument pas le propos. Je pense qu'il a été obsédé, il a été écrasé d'abord par la figure de ce père, et il a passé son temps à la fois à s'en défaire, à y revenir, à se confronter en fait à cette figure paternelle qui l'a nourri, qui l'a élevé au sens presque spirituel, métaphysique du terme, mais qui l'a aussi parfois un petit peu écrasé. Il l'a aussi utilisé. Bon, ça c'est ce que Pascal Mérigeot a très bien montré dans sa biographie. Hein. Il n'y a pas uniquement c'est une relation aussi qui a été très construite par le fils. Jean Renoir a fait beaucoup à travers ce qu'il dit de son père. Il y a un effet d'autoportrait qui est assez frappant. Et d'ailleurs, le livre de Jean sur son père, c'est aussi un livre de Jean sur lui-même. Et ce qu'il dit, ce qui est marquant, je trouve, c'est que la façon dont il parle de son père fait écho à la façon dont une génération de jeunes cinéastes parle de lui à ce moment-là. Enfin, il y a vraiment un point de rencontre. C'est assez étonnant, ce croisement des destins et ce croisement des regards. Mais plus fondamentalement, le sentiment que j'ai après avoir regardé ses films, ses œuvres et travaillé sur ses archives, lu les deux hommes à travers toutes ces recherches, c'est qu'il y a vraiment ce que Bazin appelait une sensibilité commune, enfin une sorte d'approche, cette idée en fait d'un continuum entre l'art et la vie, enfin cette fluidité, en fait cette idée que l'œuvre elle est là pour capter, que l'art il est là pour capter la vie.
Et Jean Renoir s'est même défini comme un profiteur de cette sensibilité qu'il avait en commun avec son père. Merci beaucoup Sylvie Patry de nous avoir parlé aujourd'hui des deux Renoir. Pour aller plus loin et puis surtout pour voir les reproductions des tableaux de Pierre Auguste, on peut se procurer le catalogue Renoir, père et fils en coédition Flammarion, Musée d'Orsay, Barnes Foundation. C'était la compagnie des œuvres. Laurence Millet, Laurence Genepin, Anne-Vanessa Prévost, Romain Billet, Didier Pinault et Laurie Vachon. Vous retrouverez à la même heure Manou Farine pour la compagnie des poètes. Quant à nous, on se dit à lundi avec un premier épisode d'une série qui sera consacrée à l'écrivain de science-fiction Philippe K. Dick. Et avec quelques secondes d'avance, exceptionnellement, on vous rend l'antenne, Nicolas Martin, pour la méthode scientifique, car tout de suite sur France Culture, c'est l'heure des sciences.